crime et le châtiment, l'angoisse, mais la grâce ?
Cet homme qu'on a appelé en Russie un talent cruel, cet homme dont on a dit également qu'avec ses personnages, on pourrait peubler tout un hôpital ou toute une prison. Mais ce n'est pas effrayant. Ces personnages sont tellement complexes qu'ils peuvent changer dans la vie et ils peuvent se convertir, devenir meilleurs.
Non.
Dostoïevski.
Prénom.
Fyodor Mikhailovitch, selon la coutume russe, il porte dans son nom le prénom de son père, un médecin militaire qui prétendait renouer avec la noblesse passée de sa famille.
Naissance.
Le 30 octobre 1821, il y a précisément 200 ans.
Études.
Son père, Vov, et avec qui il ne partage rien, sinon des lettres réclamant de l'argent, le pousse vers l'école du génie militaire.
La mort du père.
Le père aurait été assassiné par les serfs de son petit domaine. Mais emprisonner ces derniers aurait ruiné les deux fils. Fyodor écrit à son frère, l'homme est un mystère. Il démissionne de l'armée, commence à publier, et c'est un jeune homme lancé qui fréquente le cercle socialiste de Petrachevski.
Sa condamnation à mort.
La police du tsar démantèle ce groupe. La justice du tsar prononce la peine de mort. Mais à l'instant de l'exécution, la grâce du tsar intervient, soigneusement mise en scène. La peine de Dostoïevski est commuée en 4 ans de bagne et 6 ans de service militaire comme simple soldat.
L'expérience du peuple russe est aussi celle de l'Europe occidentale.
Pour lui, le peuple russe tel qu'il l'a connu au bagne a un fond de bonté, tandis qu'en Europe occidentale, où il séjourne entre 1867 et 1871, il constate le règne de l'intérêt individuel.
Les œuvres ?
Il les écrit, voire les dicte à sa femme, Anna Grigorievna. Un rythme impressionnant, une hâte fiévreuse peut les habiter, mais il y a une structure secrète pour les organiser. Citons les plus monumentales, Crime et châtiment, L'idiot, Les démons, Les frères Karamazov.
La gloire finale ?
Les dernières années, notamment lorsqu'il célèbre Pouchkine dans un fameux discours, il se fait réconciliateur après avoir été anti-occidental.
Sa mort ?
Le 28 janvier 1881, et la foule qui suit son enterrement sur un kilomètre est composée d'un peu toutes les tendances de la société russe.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Dostoïevski est né il y a 200 ans. C'est une raison pour rouvrir son dossier, mais il y en a peut-être d'autres.
C'est pas rien cet anniversaire. En Russie, évidemment, malgré le confinement. Et même ici, à Paris, deux grands théâtres mettent Dostoïevski à l'affiche, le français, avec les démons, l'Odéon, avec les frères Karamazov. Mais pour vous répondre plus précisément sur l'importance historique, déjà, de Dostoïevski, je vais invoquer le témoignage de notre premier interlocuteur. Ce sera le philosophe Michel Elchaninov, qui naguère a consacré sa thèse à Dostoïevski.
Dostoïevski, pour le 19e siècle, est aussi important que Marx, Nietzsche et Freud. Marx, vous savez, au 19e siècle, était allé voir le plus grand centre commercial de l'époque, qui se trouvait à Londres, qui s'appelait le Palais de Cristal. Et il y a vu ce qu'il appelle le fétichisme de la marchandise. Dostoïevski, lui aussi, est allé voir ce centre commercial, ce Palais de Cristal, et il y a vu la force irrésistible de la société de consommation. Et ça l'a terrorisé. Ensuite, Dostoïevski, c'est quelqu'un qui a vu ce qu'on peut appeler une psychologie souterraine. C'est-à-dire que sous les belles intentions proclamées par les hommes, il y a des processus qui sont souvent autodestructeurs, souvent sadiques, souvent pervers, qui nous animent. Et ça, il l'a vu bien avant Nietzsche.
Qu'est-ce qu'il dit, Freud ?
Freud n'avait pas de sympathie pour ce mélange de mystique et de perversion qui, d'après lui, caractérise Dostoïevski. Mais dans son texte, Dostoïevski, le parricide, il voit quand même dans le désir de tuer le père chez dans les frères Karamazov une des grandes préfigurations du complexe d'Œdipe.
Et puis, permettez-moi une justification d'ordre plus personnel que m'apporte notre deuxième interlocuteur, André Markovics, qui, il y a 20-30 ans, a traduit à nouveau frais l'ensemble de l'œuvre de Dostoïevski en français et l'a tiré des représentations que je m'en étais faite jeune.
On lit Dostoïevski quand on est adolescent. Enfin, on découvre Dostoïevski quand on est adolescent. Ce que tu découvres quand tu lis Dostoïevski, c'est pas tellement Dostoïevski. C'est cette immensité que tout adolescent peut porter en lui et cette espèce de tempête de passion, de beauté, de terreur que chaque être humain porte en lui et dont Dostoïevski est comme une espèce de... Enfin, de représentation, quoi. Et donc, quand tu lis Dostoïevski, ce que tu lis, c'est toi-même. Quand arrive quelqu'un qui dit « Mais vous savez, ce que vous avez lu, c'est pas tout à fait tout ce que Dostoïevski a écrit. » Et qui explique que, par exemple, voilà, d'un point de vue stylistique, c'est pas comme ça, c'est machin truc, voilà. Pourquoi les gens réagissent d'une façon violente? Ils réagissent pas contre ce type qu'ils ne connaissent pas. Ça, peut-être. Et qui c'est ce vaniteux qui? C'est pas ça. Ils se posent la question, mais sur quoi je me suis construit? Il y a человек больной, il y a злой человек, непривлекательный я человек. Littéralement, je suis un homme больной, malade, et c'est une expression, une façon de le dire très, très familière, quasiment vulgaire. Я злой человек. Je suis un homme méchant. Je suis méchant comme homme. Méchant et méchant, mais ça veut pas que dire méchant d'ailleurs, ça veut dire aussi en colère, haineux. Et непривлекательный я человек. C'est pas attirant, je suis homme.
Je suis homme méchant, haineux. Dostoïevski a développé un sentiment de culpabilité après la mort de son père en 1839. Il harassait en effet celui-ci de réclamations financières alors que le père ne connaissait que des difficultés dans son petit domaine bien peu profitable. Le père en était venu à maltraiter ses serfs. On a dit que les serfs lui avaient fait un mauvais sort, l'assassinant. On a même murmuré qu'il l'aurait castré. Ce qui semble sûr, c'est qu'après l'annonce de cette disparition mystérieuse, on entendait Markovics dire que Dostoïevski était un homme malade, et bien celui-ci a connu sa première crise nerveuse, dont on ne saura jamais si c'était vraiment le haut mal, l'épilepsie.
L'épilepsie chez Dostoïevski, la première étape, très longue, et il explique ça, que toutes les impressions de la vie se colle dans le cerveau. Et il emploie ce mot, se colle dans le cerveau. Et que ça devient de plus en plus oppressant. Et que ces impressions sont indifférenciées. C'est-à-dire que n'importe quoi vient se coller dans le cerveau et au fur et à mesure presse et presse et presse. Ensuite, il y a une seconde d'éblouissement total, d'extase absolue, dans laquelle Dostoïevski dit « le temps n'existe plus ». Et Dostoïevski dit que rien que pour vivre cette seconde, que cette seconde en elle-même justifie toute une vie. C'est aussi la structure par accumulation hallucinante d'aventures, de péripéties, de personnages, au point que on n'arrive plus, comment dire, à suivre jusqu'au moment où il y a une explosion, une scène où tout explose. Ce qui compte pour lui, c'est l'image poétique de cette maladie. Et comment est-ce qu'il utilise cette maladie comme finalement moyen d'écrire? C'est réellement un des motifs essentiels de toute l'œuvre de Dostoïevski.
On est enterré vivant sous une accumulation.
Voilà, absolument. Jusqu'au moment où il y a cette espèce de d'épiphanie. Enfin, c'est comme ça que je le ressens.
Épiphanie, Dostoïevski a toujours utilisé un vocabulaire religieux, même si, dans les années 1840, l'image du Christ qui l'accompagne, c'est celle d'un Christ révolutionnaire, romantique. En effet, après avoir écrit un premier livre très social, Les pauvres gens, il fréquente un cercle qui se nourrit des socialistes français et ensuite de l'exemple des révolutions européennes de 1848. Dans ce groupe, le groupe de Petrachevski, il est membre d'un noyau plus secret qui complote pour l'abolition du servage qui règne encore en Russie. Mais la police du tsar Nicolas Ier a ses indicateurs. Les membres du noyau dur, comme ceux du cercle littéraire, sont arrêtés indifféremment. 15 d'entre eux sont condamnés à mort en 1849, et parmi eux, Dostoïevski. Cependant, le cérémonial de l'exécution va se transformer en miracle. Le tsar a décidé de mettre en scène sa magnanimité. Et au moment où les soldats s'apprêtaient à mettre les condamnés en joue, la nouvelle de la grâce impériale était parvenue in extremis. Le récit de cette journée inouïe sera fait par Dostoïevski dans « L'idiot » par la voix d'un personnage qui laisse passer la lumière. Ici Philippe Avron dans le rôle du prince Michkine.
J'ai rencontré un homme qui avait été condamné à mort. Il a été conduit sur les lieux de l'exécution et puis gracié un quart d'heure après. Mais pendant ce quart d'heure, il était certain qu'il allait mourir. Ils étaient plusieurs à devoir être fusillés, et comme il n'y avait que 3 poteaux et qu'il n'était que le 8e, il ne devait passer qu'au 3e tour. Les 3 premiers étaient déjà attachés aux poteaux, on leur mit leur cagoule, et les soldats s'alignèrent devant eux. Il ne restait plus à mon ami que 5 minutes à vivre. Il me disait que ces 5 minutes lui ont paru alors une richesse infinie. Il lui a semblé qu'il pourrait transformer ces 5 minutes en tant de vie qu'il était encore inutile de penser au dernier moment. Une seule pensée l'obsédait. Si je pouvais ne pas mourir, si la vie m'était rendue, alors je transformerais chaque minute en éternité. Je ne gaspillerais plus ce trésor. Il disait que cette pensée avait dégénéré chez lui en une telle rage qu'il en était arrivé à désirer qu'on le fusille au plus tôt.
Mais pourquoi nous avez-vous raconté cela ?
Pour rien. Cela m'est venu à l'esprit dans la conversation.
Sans doute. Vouliez-vous en déduire, prince, qu'il ne faut pas gaspiller même un instant et que parfois 5 minutes valent plus qu'un trésor.
Oui, c'est cela.
Oui, mais tout de même, si on revient à 1849, après le simulacre d'exécution, ça a aidé le bagne. En Sibérie, avec 2 premières années très difficiles. Sous la férule de compagnons violents et d'un officier alcoolique.
Je revois mon arrivée au bagne. C'était un soir de décembre. La nuit allait tomber. Les forçats revenaient de leur corvée. On se préparait à l'appel. Un sous-officier moustachu m'ouvrit enfin la porte de cette étrange demeure où je devais supporter tant d'émotions que j'aurais été incapable de comprendre sans les avoir éprouvées. Par exemple, je n'aurais jamais pu concevoir le tourment effroyable de ne pouvoir rester seul, ne fût-ce qu'une minute. J'ai déjà dit qu'au cours de mes années de bagne, je n'ai pas constaté chez mes camarades le moindre regret, le moindre malaise de conscience. Dans leur fort intérieur, la plupart estimaient avoir bien agi. Presque tous rêvaient et divaguaient pendant leur sommeil. Alors, jurons, mots d'argot, couteaux, haches revenaient le plus souvent sur leur langue. On est des gens rossés, disaient-ils. On est tout écrasé par dedans. C'est pour ça qu'on crie la nuit.
Tout écrasé par dedans. Le poids de la pierre sur le corps de Lazare dans l'Évangile. Un épisode sur lequel on aura à revenir. Lazare qui va ressusciter. « Le croiras-tu ? » écrira Dostoïevski à son frère. « Au milieu de cette violence qui pouvait surgir à tout instant, j'ai rencontré chez les bagnards des hommes qu'ils ne savaient plus quel fond de bonté, ils pouvaient rester en eux. »
Il y a des moments où les prisonniers cessent de s'injurier, de se battre, de fanfaronner, de plastronner sur leurs crimes passés, et où en fait il manifeste quelque chose d'enfantin. Et c'est ça qui touche beaucoup Dostoïevski, c'est que il y a une forme, un fond de décence enfantine dans ce peuple, malgré véritablement sa sauvagerie, c'est-à-dire sa capacité à aller jusqu'au meurtre. Donc, il y a quelque chose qui trouble Dostoïevski.
Mais c'est au bagne qu'il se souvient d'un épisode de son enfance. Il avait peur d'un loup qui aurait pu le dévorer, et il se jette dans les bras d'un serf de son père, qui lui fait le signe de la croix sur le front, et il a l'impression de retrouver au bagne le même personnage, peut-être couvert de chaînes, fustigé, marqué au fer rouge, mais fondamentalement bon, comme était le serf qu'il avait secouru.
Oui, c'est-à-dire que dans ce peuple, il y a ce que Dostoïevski n'a jamais idéalisé, c'est-à-dire il y a l'alcoolisme, il y a la violence, il y a même le désir de transgression, c'est-à-dire par exemple d'assassiner quelqu'un en demandant pardon à Dieu tout en le faisant. Il y a sans doute de la complaisance dans le mal, mais là il découvre ce que Nietzsche appellera le type du criminel, ce que Nietzsche appellera le type du criminel en lisant Dostoïevski d'ailleurs, c'est-à-dire une nature large, c'est une expression qu'on trouve dans les frères Karamazov, des personnes qui sont à la fois capables de tuer sans aucune vergogne et qui en même temps parfois sont pris d'accès, d'enthousiasme ou de naïveté. Et Dostoïevski effectivement restera fidèle, on peut le dire, à ce peuple en faisant apparaître des personnages parfois inquiétants, parfois lumineux, dans certains de ses romans.
Des personnages pétris de contradictions. On peut y trouver en même temps l'indignité apprise, la générosité native. Les carnets que Dostoïevski rapportera du bagne ont longtemps été traduits en français « Souvenirs de la maison des morts ». Mais il faut dire, selon André Markovitz, « Carnet de la maison morte ». C'est la maison qui est morte, gelée dans le froid sibérien. Peuvent en sortir des vivants, comme Dostoïevski, ragaillardi par la rencontre qu'il y a faite d'un peuple russe qui lui donne des motifs d'espérer, bien qu'il l'ait rencontré, sur des chemins creusés de chênes, au bruit cadencé des maillons. Shostakovitch, le chant du bagne dans Lady Macbeth du district d'Omtensk.
France Inter, Intelligence, Service, Jean Lebrun.
Au bagne, Dostoïevski a fait une expérience du peuple russe que n'a pas connue l'intelligentsia, et contre laquelle il va se retourner violemment.
Oui, les anciens amis socialistes de Dostoïevski ne vont pas le reconnaître après qu'il ait rentré de longues années de bagne, mais aussi de service militaire au Kazakhstan. En plus, il va faire un séjour en Europe occidentale, avant même ce séjour, mais plus encore après ce séjour qui se termine 1871, au moment de la Commune de Paris qui l'épouvante. Il en vient à maudire les leaders révolutionnaires qu'il peint, par exemple, dans son texte, les démons comme des prédateurs. Les voici, ces démons, qui se saisissent des milieux protégés d'une ville russe, qu'ils vont comme retourner, semant le chaos dans la pensée, les comportements et la langue.
Alors les démons, effectivement, c'est la juste traduction, puisqu'en russe c'est bes, et bes, ce sont les démons qui vont aller s'emparer du corps de personnes, ou du corps de la société. Et là, à ce moment-là, cette société, ce seront des personnes possédées par ces démons. Et le roman Les Démons, ça décrit les agissements d'une bande de révolutionnaires, qu'on appelait alors des nihilistes ou des révolutionnaires, ils ont diverses idéologies, qui vont, j'allais dire, mettre le feu à une petite bourgade de la province russe. Ils vont rendre les gens fous. Ils vont instiller des idées de révolte, de transgression. Ils vont installer le chaos. C'est un jeu de massacre, ce roman. Sa cible, ce sont donc des jeunes gens qui sont à la fois révolutionnaires, qui sont pour le peuple, mais qui en fait méprisent le peuple, et donc qui sont prêts à devenir des terroristes. Ils les détestent. Mais ce sont aussi les parents. Les parents qui, pour être à la mode, vont faire comme les enfants.
Il y a un personnage féminin qui illustre bien ça.
Varvara Petrovna. Varvara Petrovna, c'est un peu la grande dame de cette province. Et puis, elle dit à certaines parties du roman, mais moi, maintenant, je parle crûment. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est à la mode. C'est-à-dire qu'elle change son langage. Et Dostoïevski a toujours été très attentif, évidemment, à la question du langage de ses personnages. Et il montre comment une snob va devenir volontairement prosaïque et essayer de suivre la mode des jeunes.
La ville de province russe, c'est comme un tableau noir où les révolutionnaires auraient effacé ce qui témoignerait des grandeurs de l'ancien monde et ils y inscriraient ce qu'ils voudraient. À leur point de départ, leur liberté illimitée. En conclusion, observe Dostoïevski, leur dictature illimitée.
Tu t'intéresses au peuple, toi? Tu prends la défense de ses droits?
Mais depuis longtemps. C'est vous qui allez changer ce vieux monde?
Oui. Exactement comme tu le voulais. Tu te souviens, tu disais, il ne faut faire aucune concession à l'injustice. S'il faut être dur.
Oui.
Eh bien, nous allons suivre tes idées. Mais je suis sûr que tu ne les reconnaîtras pas. Il faudra frapper sans pitié. Tu as raison, c'est indispensable.
Vous seriez prêt à couper des têtes?
Évidemment. Trois fois plus de têtes s'il le faut que les Jacobins français.
Il est plus facile de couper des têtes que d'avoir des idées.
Et nous frapperons, dent pour dent, comme dans l'Évangile.
Malheureux, ce n'est pas dans l'Évangile.
Mon diable! Je n'ai jamais lu ça, t'as des bouquins. Je n'en ai lu aucun d'ailleurs. Ce qui compte, c'est le progrès.
Mais Shakespeare et Victor Hugo n'empêchent pas le progrès.
On n'a plus besoin de livres. Victor Hugo n'est qu'un vieux cul. Et Shakespeare, nos paysans n'ont pas besoin de Shakespeare, ils ont besoin de chaussures.
Et vous allez leur en donner?
Évidemment.
Bientôt?
Au mois de juin. Oui, au mois de juin, tout le monde fabriquera des chaussures.
Et ensuite, qu'arrivera-t-il?
J'en sais rien. Tu appartiens à une génération qui disparaît. Tu poses des questions idiotes. Moi, je suis d'abord ici pour détruire. D'autres bâtiront. Le plus vite on commencera à détruire, mieux c'est.
Albert Camus a adapté le texte de Dostoïevski. On le nommait alors les possédés. Il identifiait dans ce texte les sources du nihilisme contemporain. Dostoïevski, disait-il, en prévoyait les conséquences, cherchant des voies de salut. Mais d'autres écrivains ont réagi autrement. Nabokov voyait en Dostoïevski un écrivain progromistique. Entendez que ça, mystique, du peuple russe, l'avait mené tout droit vers des positions xénophobes, pogrom et racistes. Nabokov détestait tout chez Dostoïevski. Lui, il aimait le vocabulaire précis jusqu'au raffinement. Pour lui, comme pour un Tourguenieff, un ormo, c'était différent d'un orme. Dostoïevski ne voyait qu'un arbre. Et ajoute Nabokov, les portraits physiques étaient réglés par lui en trois coups de cuillère à peau. C'était bien rare qu'il consente à décrire une ville, si, peut-être, mais assez curieusement, Saint-Pétersbourg. Nous sommes maintenant au début de Crime et Châtiment.
Dans Crime et Châtiment, il y a un portrait de ville par les yeux d'un être qui a souvent faim, qui est souvent secoué par la fièvre, qui projette un meurtre, puis qui l'exécute. Et on a une vision surtout des quartiers les plus pauvres de la capitale, autour de la place des Foins, où vivait Dostoïevski d'ailleurs à certaines époques de sa vie, avec des multitudes de cabarets, des clochards, des prostituées, une inégalité sociale extrême, puisque des messieurs vont chercher des prostituées dans ce quartier. Mais un portrait, je dirais, presque expressionniste de Saint-Pétersbourg. Pas un portrait réaliste, mais une ville... chaude, même très chaude, sous la canicule, une ville sous ce qu'on appelle les nuits blanches, c'est-à-dire les nuits sont très courtes, donc une ville un peu fantastique, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Dostoïevski se réclamait d'un réalisme fantastique. C'est-à-dire que Dostoïevski voulait décrire le monde tel qu'il est, Saint-Pétersbourg comme elle est, dans ses quartiers les plus pauvres, mais en même temps, il passe par le fantastique, pour atteindre une réalité qui n'est pas seulement la réalité extérieure, mais pour essayer de décrire les mouvements de l'âme humaine, finalement, qui traverse aussi ces lieux.
Réalisme outré, dit Michel Elchaninov, halluciné, avec des personnages exagérés, tant ils sont écartelés par leurs contradictions qu'ils vont par exemple noyer dans l'alcool.
Le personnage le plus impressionnant d'ivrogne presque métaphysique, c'est Marmeladov, donc, qui est un homme au bord de la mort, qui est malade, qui est ruiné, dont la fille se prostitue pour faire vivre la famille, et qui est parfaitement conscient de sa misère morale. Et je crois que c'est ça qui lui donne de la grandeur. Ils sont tous les deux, et Raskolnikov, dans un troquet, un bistrot en sous-sol de Saint-Pétersbourg, dans des rues qui en comptent des dizaines, où vraiment les personnes les plus pauvres se retrouvent. Et cet homme est ivre, évidemment. Et il va raconter sa vie comme celle de quelqu'un qui a honte de lui. Et dans cet aveu de son abjection, il y a une forme de sainteté.
Le traducteur André Markowitz.
Au début de Crime et Châtiment, il y a cette longue confession de cet ivrogne Marmeladov que Raskolnikov ne connaît pas mais qu'il découvre. Et Marmeladov, sans le connaître, lui raconte toute sa vie. Et il lui raconte dans une langue hallucinante, qui est à la fois d'une grande vulgarité, d'une grande, je ne peux pas dire noblesse, mais avec des effets de style. Et donc il raconte que comment, à un certain moment, il était totalement alcoolique. Et en fait, on lui a promis un travail. Et comment sa femme, qui est tuberculeuse, était contente, et comment tout le monde était content. « mon bon monsieur !» s'exclama Marmeladov après s'être un peu repris. « Oh, mon monsieur, vous, si ça se trouve, ça vous fait rire tout ça, comme les autres. Et moi, je suis juste là, à vous déranger avec toute la sottise de ces misérables détails de ma vie domestique. Mais moi, pourtant, ça ne me fait pas rire. Car tout cela, moi, je suis capable de le ressentir. » Et toute la durée de cette journée paradisiaque de ma vie et de toute la soirée, moi-même, je les ai passées à m'adonner à des songeries aux ailes vagabondes. C'est-à-dire, comment, n'est-ce pas, j'arrangerais tout ça et les enfants que j'allais habiller, puis ma fille unique que j'allais sortir du déshonneur pour la réintégrer dans le sein familial, et plein, plein de choses. C'est permis, ça, monsieur. Eh bien, n'est-ce pas, mon brave monsieur, Marmeladov fut soudain comme un tressaillement et se pencha fixement vers son auditeur. Eh bien, n'est-ce pas, dès le lendemain, après toutes ces songeries, c'est-à-dire il y a exactement 5 jours au soir, par une tromperie de ruse, comme un voleur sous le couvert de la nuit, j'ai volé à Katerina Ivanovna, son épouse, la clé de sa malle. J'ai sorti tout le restant du salaire que j'avais apporté, combien en tout je ne me souviens plus. Et voilà, n'est-ce pas, regardez-moi, c'est tout. 5 jours que je suis parti de chez moi. Eux, là-bas, ils me cherchent, et mon poste qui est perdu, et mon uniforme dans un débit de poisson près du pont égyptien, en échange de quoi j'ai reçu cette vêture. Et c'est la fin de tout. Et là encore, il y a cette confession, et puis il y a les ailes vagabondes, et la vêture, c'est-à-dire ce vocabulaire à la limite du ridicule, voire la limite franchie du ridicule, et donc cette double dimension. Ce côté absolument tragique de la réalité décrite et la perversion de la personne qui parle. Perversion qui n'empêche pas du tout sa tragédie.
Encore peu de jours et l'ivrogne Marmeladov sera écrasé sous le poids d'une voiture dans la rue et l'étudiant Raskolnikov qui a essayé de le sauver aura assassiné sa voisine, la vieille usurière. Raskolnikov, comme souvent les personnages de Dostoïevski, c'est une idée en acte. Il pense que certains êtres exceptionnels sont en droit de débarrasser la terre de ses encombrants, la vieille usurière par exemple. Il veut croire qu'il n'en éprouvera pas de culpabilité. Mais déjà quand il passe à l'acte, quand il arrive chez la vieille, la hache dissimulée dans son dos.
Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?
Mais enfin, Alena Ivanovna, vous me connaissez, je suis Raskolnikov. Alors voilà, je vous apporte l'objet dont je vous ai parlé la dernière fois. Pourquoi me regardez-vous comme ça ? Vous ne me reconnaissez pas ? Si vous voulez cet objet, prenez-le. Si ça ne vous intéresse pas, eh bien tant pis, j'irai ailleurs. Il est inutile de faire perdre mon temps.
Mais vous ne savez pas, Zubska. Qu'est-ce que c'est que cet objet ?
C'est un étui à cigarette. En argent. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé la dernière fois.
Quand vous êtes pâle, vous êtes malade.
J'ai peut-être la fièvre. Comment ne pas être pâle quand on n'a rien à manger ?
Raskolnikov tend l'étui à cigarette en argent. Un des derniers mots de la vieille a été pour dire que cet étui en argent ne lui paraît pas bien lourd.
J'en ai parlé souvent, mais quand même, dans Crime et Châtiment, ce qui vous frappe d'abord, c'est que tout est lourd. Tout est lourd. Tout écrase, tout est lourd. Mais réellement, tout, je veux dire, la hache, le cheval qui écrase Marmeladov, tout. Et même le temps, il fait lourd. Bon, d'accord. Et ça, c'est la première chose. Et ça te frappe d'une façon... Voilà, tu lis comme ça, et tu comprends pas pourquoi. Après, t'as un deuxième... Enfin, après, pas après, en même temps. T'as un deuxième élément, c'est que tout pue. Moi, je traduisais, je cherchais le mot odeur, zapr. Je l'ai pas vu. Peut-être qu'il y est, mais je l'ai pas vu. Il y a vogne, puanteur, et dour, qui est l'esprit, mais ce qui est un vieux mot pour dire l'odeur, mais en dour, en russe, ça veut dire l'esprit. Bon, tout pue. Et là encore, tout. Car la rue, en été, avant l'orage, les peintures du commissariat, tout. Les pensées puent. Et puis tout marche. On compte les pas. On compte les marches, on compte les pas, on marche, on n'arrête pas. Et on compte, et on compte, et on compte. Et au milieu, là encore, au milieu quasiment mathématique du roman, Raskolnikov arrive chez Sonia, et il lui dit, c'est où, là ? Et il voit la Bible, et il lui dit, c'est où Lazare ici ? Comme ça, il lui dit ça comme ça. Dit à toute prévoise, d'une façon aussi familière et vulgaire que ça. Donc Sonia lit, et elle lit quoi ? Que Lazare est enterré dans la grotte, et que Jésus dit « ôtez la pierre », parce que la pierre est lourde. Que Marthe dit « mais il pue déjà », puisqu'il est mort depuis 3 jours. Et que Lazare sort, que quand Jésus dit « Lazare sort et vient », Lazare sort et fait quelques pas. C'est-à-dire que toute la structure du roman est sur la résurrection de Lazare.
Alors Sonia, c'est le personnage symétrique de Raskolnikov, c'est la fille de Marmeladov. Son père la contraint à la prostitution pour faire bouillir la marmite. Mais c'est un peu l'équivalent de Marie-Madeleine. C'est dans son évangile que Raskolnikov lit le récit de la résurrection de Lazare. Dostoïevski se souvient qu'au bagne, en 1849, il a été aidé par des femmes qui avaient accompagné leur mari comploteur de 1825, les décembristes. Ces femmes étaient restées un quart de siècle plus tard pour secourir d'autres bagnards. Et, dans Crime et Châtiment, il va faire suivre le même chemin à Sonia, qui est prête à secourir Raskolnikov. Que fera Raskolnikov de ce secours? On n'aura jamais la fin de Crime et Châtiment, et Dostoïevski regrettera encore, à l'heure de sa mort, de n'avoir pas décrit le parcours final de son héros.
Светят фонари, давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову, кабак, конечно. Пусть мигла снится, мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Помада, сапоги старшей сестры. Нелегко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница.
France Inter.
Восьмиклассница.
Intelligence. Service.
Il y a pire que Raskolnikov. Dostoïevski descend très profond dans notre sous-sol. Ce qu'il dit des crimes commis contre les enfants résonne particulièrement aujourd'hui.
Oui, donc il y a plusieurs types de crimes. Il y a les crimes commis au nom des idéologies, c'était le thème des démons. Il y a le crime de Raskolnikov, qui pense qu'il est au-delà du bien et du mal. Il y a le parricide qui rôde, comme dans la vie de Dostoïevski jeune, jusque dans les frères Karamazov. Et puis, il y a le crime contre les enfants. Alors nous voici justement chez les frères Karamazov. Ivan et Alyosha trouvent beaucoup de raisons de désespérer, et notamment de ce qu'ils lisent dans les gazettes.
Il n'y a qu'à lire nos gazettes. Un monsieur très bien, et sa dame, musicien, humaniste et tout, s'amuse chaque soir, pour rien, pour leur plaisir, à fouetter leur petite fille. 5 ans. Et s'échauffe jusqu'à la volupté. Littéralement la volupté. Et fouette de plus en plus fort, de plus en plus vite. Et ça saigne. La tendre chair d'enfant est l'innocent objet de leur plaisir. Sanglote, crie dans ses petits bras, crie à ses pensionnaires, mon petit papa, ma petite maman. Appelle à son secours le petit Jésus et tout ceci parfaitement vain, car cela recommence chaque soir, cela recommence le lendemain. D'ailleurs, je crois que tous nos bons humanistes adorent faire souffrir les enfants. Je crois même qu'ils les aiment parce qu'ils peuvent les faire souffrir.
Le peuple russe, spontanément, il sait que c'est mal, mais dans les classes cultivées, Andrei Markovits.
C'est absolument radical. Il y a cette espèce de fantasme d'un des critiques de Dostoïevski à l'époque, Strahov, qui faisait courir le bruit que Dostoïevski avait violé une petite fille, etc. Mais en fait, Michel Niqueux m'a expliqué, qui est un grand professeur et qui est l'auteur d'un dictionnaire Dostoïevski qui est paru à l'Institut d'études slaves, m'a expliqué qu'en fait, il y a eu une réalité biographique, c'est-à-dire que dans son enfance, Dostoïevski a été témoin du viol d'une petite fille. Et que ça l'a... ça l'a marqué à tout jamais. Et que depuis ce moment de l'enfance, il a toujours considéré que c'était ça le point d'achoppement, finalement, de la création divine.
Ce qui résonne beaucoup aujourd'hui.
Bien sûr.
Ou c'est de nouveau considéré comme, pour Dostoïevski, comme le crime absolu.
Mais c'est pas que maintenant. Mais quand le Christ dit « tu ne scandaliseras pas les enfants », c'est-à-dire, et le mot « scandale » signifie « tu ne tenteras pas les enfants ». C'est-à-dire, tu n'attenteras pas aux enfants et tu ne tenteras pas les enfants.
Prenons une scène capitale des démons. Le personnage de Stravogin, un leader révolutionnaire, il lui est arrivé de violer une fillette, laquelle s'est pendue. Il veut bien s'en confesser à l'évêque Tikhon, mais il ne lui dit pas tout. Et pour Dostoïevski, ne dire que la moitié de la vérité, ce n'est pas dire la vérité.
Cette confession ne sert à Stavrogin qu'à contempler sa propre indifférence. Parce que quand une fois que tu as fait ça, que tu as violé et laissé mourir Matriocha, rien ne peut te sauver. Ni aucune confession, ni l'art, rien. C'est le chaos.
Cette scène de la confession incomplète de Stravogin à l'évêque Tikhon ne figure pas dans la version des démons que représente Guy Cassiers à la Comédie française. Libération écrit, elle ne manque pas. Mais pour André Markovitch, au contraire, c'est elle qui structure le texte. Mais en effet, quand il est paru en feuilleton, l'éditeur, par deux fois, a refusé les versions de cette scène que lui envoyait Dostoïevski. Dostoïevski a fini par renoncer, il est allé plus loin, il a contourné l'obstacle. La confession n'a pu retrouver sa place qu'après 1922, après qu'on l'a retrouvée dans les papiers de l'écrivain. Et on voit bien pourquoi elle nous intéresse tant aujourd'hui. Comment peut-on pardonner l'impardonnable ?
C'est à la personne d'arriver, au pécheur, d'arriver à l'état où il peut être pardonné, au moment où il peut être pardonné. C'est-à-dire que celui qui peut pardonner le pécheur, c'est en fait le pécheur lui-même. Sonia, dans Crime et Châtiment, comprend que Raskolnikov a tué. Elle lui dit une phrase extraordinaire. Elle lui dit pas « qu'est-ce que vous avez fait ?» Elle lui dit « qu'est-ce que vous vous êtes fait ?» Le crime de Raskolnikov, il est aussi contre lui-même. Pas que contre lui-même, mais aussi contre... Il s'est tué lui-même en voulant tuer. Et tout le roman « Crime et châtiment » est la quête aveugle pour Raskolnikov d'une résurrection. Mais qui est un point aveugle, puisque Raskolnikov est incapable, pendant tout le roman, de dire d'une part, j'ai tué, et d'autre part, je t'aime. Et tant qu'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir résurrection, rédemption, pardon, quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas reconnaissance de la faute.
Chez qui poser sa part de culpabilité ? À qui la faire voir, devant qui la mettre sur la table. Alors on peut penser aux starets, aux moines d'élite, comme il y en a chez les frères Karamazov, Zosime, et puis il y a le Christ.
Le Christ ne vient au secours de rien. Dostoïevski a une expression très étrange en parlant de la lumière de l'icône. Il parle d'images non appelantes. C'est-à-dire que cette image ne fait rien pour t'appeler à elle. Elle ne t'attire pas. Tu peux très bien ne pas la voir. le Christ ne peut rien ajouter à ce qu'il a dit, puisqu'il a déjà dit, c'est le sens même du grand inquisiteur. Le Christ ne peut rien. Le Christ, c'est comme le sourire de l'enfant. C'est l'impuissance totale et donc la force totale. Le Christ est. Et cette existence est en elle-même la force du monde. Mais le Christ n'est pas action. Le Christ est existence.
Quand, en 1881, à 60 ans, Dostoïevski a compris qu'il allait mourir d'hémorragie, il a demandé à Anna Grigorievna, sa femme, de lui apporter l'évangile. Ce n'est pas n'importe quel évangile, c'était un évangile qui lui avait été donné au bagne en 1849 par les femmes des comploteurs décembristes qui étaient restées pour secourir les descendants de leurs proches bagnards. Et il s'est fait lire un passage de cet évangile et il est mort. Et son enterrement a été inouï. 1 kilomètre de procession. Les gens se demandaient d'ailleurs si c'était un bagnard ou un général qu'on enterrait, parce que toutes les autorités étaient là, mais aussi au premier rang les survivants du cercle Petrachevski, auquel il avait appartenu, et pour cette appartenance il avait été condamné. Et d'innombrables étudiants, certains avaient même apporté sur un coussin des fers du bagne, comme une couronne de fleurs. Et un moine a parlé et a dit « Toute l'œuvre de Dostoïevski, c'est au fond l'illustration du sermon sur la montagne. Bienheureux soient les pauvres. » Nos remerciements à Michel Etchaninov, qui a notamment publié un livre sur le corps chez Dostoïevski, à André Markovics, qui a traduit l'œuvre de l'écrivain aux éditions Actes Sud, à la prise de son Hervé Dubreuil, Pierre Fossillon, et dans le studio de la Maison de la Radio et de la Musique, Pauline Laverdure, les agents d'intelligence service Franck Olivard et Frédéric Martin, la réalisation, Étienne Bertin.